19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux puisque la famille grandit, merci à vous. Nous partons, vous savez quoi, pour une heure d'émission, d'édition spéciale concernant le discours qui était très attendu de cet après-midi du Premier ministre Gabriel Attal qui a déroulé son programme. Nous allons revenir tout au long de cette émission jusqu'à 20h pour commenter, analyser, décrypter l'actualité avec vous et 5 débatteurs exceptionnellement. C'est vrai que j'évite qu'on soit un peu nombreux sur le plateau, mais j'avoue qu'un ancien commandant de la police m'a appelé et il m'a menacé. Il m'a dit, si je viens pas chez toi ce soir sur le plateau, il s'appelle Jean-Pierre Colombiès, je le balance, si je viens pas chez toi ce soir, eh ben t'auras affaire à moi. Alors j'étais contraint de dire oui, parce que vous savez, on ne plaisante pas avec la police. Clochette, c'est parti.
Les informés. L'interview.
L'interview, on la démarre tout de suite, et vous aussi au 0153483000. Michel Taub, bonjour, géopolitologue, éditorialiste, pardon, et le directeur fondateur, d'Opinion Internationale. Alors, justement, nous allons consacrer cette émission spéciale autour du discours qui était très attendu de Gabriel Attal. Santé, éducation, travail, tout est passé en revue, et,
Pas tout. Il y a des trous dans la raquette.
Alors, il y a des trous dans la raquette. Justement, je vous donne la parole, Michel. Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce discours, cette prestation du Premier ministre?
Alors, écoutez, moi je dirais trois choses. La première, un véritable souffle, une vraie énergie, de l'audace dans la forme. Je pense qu'effectivement, à ce moment de la Macronie, des 10 ans de quinquennat, double quinquennat d'Emmanuel Macron, je pense qu'effectivement, Gabriel Attal apporte un nouveau souffle. Ça permet un peu de tourner la page des années beaucoup plus techniciennes qu'avait incarné Jean Castex, puis Elisabeth Borne. Et donc, effectivement, je pense que c'est un nouveau départ, j'ai envie de dire, un deuxième départ pour un quinquennat qui, pour Emmanuel Macron, franchement, est très, très mal parti, avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, la crise inflationniste, la crise agricole. Donc, la première chose, je pense que Gabriel Attal, il a réussi son oral, son grand oral, et son entrée dans l'habit de Premier ministre, c'est la première chose que je dois dire. La deuxième chose, c'est qu'il a saupoudré tout cela, cette énergie, d'un très grand nombre de mesures, parfois de mesurettes, avec des annonces, des engagements, des promesses qui vont un petit peu dans tous les sens, et qui, à mon avis, je trouve, atténuent un peu la vision, le cap qu'il s'évertue à donner à son gouvernement. Donc il y a plein de choses, je ne vais pas en faire le catalogue. Il met le paquet sur le travail, dynamiser le travail. Il annonce, mais c'est la je ne sais combienième fois que la Macronie l'annonce, la généralisation du service national universel. Il y ajoute un service civil écologique. Ça va un petit peu dans tous les sens. Il y a énormément de choses, peut-être trop de choses, dont à mon avis, on verra d'ici 1, 2, 3 ans s'il arrive jusque-là, s'il y a seulement 10% ou 20% de ce qu'il a annoncé aujourd'hui qui aura été appliqué. Et puis la dernière chose, il y a des trous dans la raquette, il y a des éléments qu'on ne retrouve pas dans le discours de politique générale. Par exemple, le mot laïcité n'est même pas prononcé.
Oui, c'est vrai, le mot laïcité et le mot populaire aussi n'a pas été cité.
Mais il y a un autre mot qui est plus qu'un mot, qui est une politique publique. Il n'y a rien sur la politique de la ville.
Alors pourquoi le mot laïcité n'a pas été cité alors?
Pardon?
Pourquoi le mot laïcité n'a pas été lâché?
Ah, c'est une grande question. À mon avis, c'est parce que ça fait partie des maillons faibles de la doctrine macroniste. Ça fait partie des éléments qu'il faut forcer pour que lorsqu'on est dans la Macronie, on fasse de la laïcité une priorité. Mais ce qui est peut-être plus grave, parce que enfin, la laïcité, pour moi, c'est fondamental, c'est une valeur cardinale de la République, et j'aurais voulu que Gabriel Attal explique comment il allait transmettre, notamment aux jeunes générations, lui, il en fait partie, l'importance des valeurs de la laïcité. Mais il y a une deuxième chose qui est absente dans son discours, il n'y a rien sur la politique de la ville. Même le concept de politique de la ville n'est pas dans son discours. On n'y trouve rien là-dessus. Alors, est-ce à dire que c'en est fini des politiques de la ville? Est-ce à dire que de faire des quartiers une priorité de politique sociale, c'en est terminé pour lui? C'est une vraie question qui se pose. On a quand même eu une année 2023 avec des grandes violences, notamment dans les banlieues, mais pas uniquement les violences qu'on a connues à l'été dernier.
Oui, j'aurais attendu
j'aurais attendu une réponse sociale plus forte, même si elle doit être aussi sécuritaire, mais une réponse sociale. Oui. Pas rien sur la politique de la ville. Et ça, je pense que c'est une petite déception, voire une grande déception dans, dans son discours d'aujourd'hui.
Alors dites-moi, Michel Taube, justement, il y a un ancien commandant de la police qui est aujourd'hui porte-parole aussi d'une catégorie de la police. Il est comédien aussi par ailleurs. Il veut échanger avec vous parce qu'il n'est pas du tout d'accord. Alors pour le coup, il a un autre son de cloche. Jean-Pierre Colombiès, Jean-Pierre Colombiès, c'est Michel Taube.
Moi, attention, je ne vous ai pas menacé comme il vous a menacé pour venir à l'antenne.
Ah,
hein,
moi, il m'a appelé.
Quand même.
Pour les auditeurs, je rigolais. Hein,
oui,
c'était
je précise,
c'est une boutade. On se connaît bien, Jean-Pierre Colombiès et moi. Voilà. Vous êtes taquin, vous aussi. Vous êtes taquin.
Ce qui va sentir va mieux en le disant, comme disait Talleyrand.
Allez-y, Michel Taube vous écoute.
Bonsoir, tout d'abord. Oui.
Bonsoir.
Non, effectivement, je n'ai pas menacé Adil. Non, mais j'ai piqué un coup de colère parce que je suis désolé. Moi, je n'ai rien vu de grand dans le discours de M. Attal. Et j'étais même sidéré de l'entendre faire un bilan aussi noir des années passées. Parce que vous oubliez aussi Édouard Philippe, quand même, dans le panégyrique des premiers ministres, à croire que pendant 7 ans, il n'y a pas eu de gouvernance dans ce pays. Pas eu Édouard Philippe, pas eu Castex, pas eu Mme Borne. Mme Borne, les oreilles ont dû lui siffler. Elles ont dû lui siffler, les oreilles.
Michel Taube.
Non, dans son discours, et je peux vous dire que beaucoup de premiers ministres ne l'ont pas fait dans le passé, il a nommément salué Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne. Les prédécesseurs n'avaient pas eu cette cavalerie de citer leurs prédécesseurs. Il a quand même fait.
Non, mais est-ce que vous n'avez quand même pas eu le sentiment que. J'ai quand même bien écouté ce qu'a dit Gabriel Attal. Il nous a fait une liste à la Prévert de tout ce qui n'allait pas et des nouveaux chantiers qu'il allait ouvrir. Mais je suis désolé, ça fait 7 ans qu'ils sont aux manettes quand même. Et depuis 7 ans, personne ne s'est rendu compte que dans tous ces thèmes, c'était absolument la catastrophe. Et particulièrement, parler de la laïcité, moi je dirais plus globalement le service public. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit de dire on va aller vers un nouveau monde, le nouveau monde à la Macron. C'est juste. Pas possible en matière de sécurité, notamment, c'est surtout la matière que je connais le mieux, parce que je peux vous en parler en connaissance de cause, où on a supprimé des postes de policiers partout, et qui dit postes de policiers...
Non, c'est pas vrai, on en a créé énormément.
Mais il n'est pas d'accord, Michel Taube, laissez-le exprimer, on vous dit que c'est pas vrai. Attendez, je donne juste la parole, Jean-Pierre Colombiès.
Je ne fais pas de politique, je parle de chiffres.
Il ne fait pas de politique, Michel Taube,
je parle de chiffres.
Il est journaliste.
De chiffres.
Oui.
Un commissariat sur deux fermé à Marseille, d'accord, ça vous parle pas. Des commissariats qui ferment, qui sont mutualisés partout, d'accord, c'est une réalité, c'est pas de la fiction.
Alors,
je suis en train de
fantasmer. Michel Taube, vous me traitez de menteur, je suis désolé. Non, je peux pas
laisser aller ça parce que les chiffres sont totalement inexacts. Ce que vous dites, c'est inexact. Le problème de la Macronie, c'est que la sécurité n'a jamais été, le cœur de l'idéologie macronienne, s'il y en a une. Et c'est vrai que Macron, regardez ce qu'il a dit sur les émeutes il y a 15 jours lors de sa grande conférence de presse.
Oui.
Il a expliqué les émeutes par un problème d'oisiveté dans les quartiers.
C'est ça, oui.
Donc
c'est...
il a une lecture très sociale des problèmes de notre société.
Je dirais plutôt déconnecté, moi. Je dirais plutôt déconnecté, excusez-moi. Hein.
Alors que certains voudraient avoir une lecture plus sécuritaire. Donc non, il y a un paradoxe de la Macronie, sur laquelle Gabriel Attal ne va absolument pas revenir, c'est que paradoxalement, on n'a jamais créé, contrairement par exemple à ce qu'avait fait Sarkozy. Sarkozy, il parlait tous les jours de sécurité, mais c'est lui qui a diminué le nombre de policiers en France.
Oui.
Macron, il a fait le contraire.
C'est
il
faux.
A créé beaucoup de postes de policiers,
c'est faux.
Mais il n'a pas parlé de
mais
sécurité.
Mais non, mais c'est faux.
Et résultat...
On peut pas laisser dire des contre-vérités pareilles.
Vous allez lui répondre, Jean-Pierre Colombiès.
Ah oui,
c'est faux?
Il parle beaucoup. C'est faux,
là,
tout
répond.
Simplement.
Vous
faites référence très certainement aux 10 000 policiers qu'il vient de recruter, sauf qu'il y a eu 10 000 démissions dans le même temps. D'accord?
Ça, c'est.
Exactement. Et si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, ce qui m'est arrivé de faire, ça m'a coûté, mais je l'ai fait, il y a une programmation de diminution du corps.
Pourquoi ça vous a coûté?
Non, parce que c'est assez aride, il faut le reconnaître. Mais bon, bref, là où je veux en venir, simplement, c'est qu'il y a une programmation des départs dans le service public sécurité-police qui va s'étaler jusqu'à 2030. Et on va vers une catastrophe, mais tout simplement parce que là, on rentre dans le cadre d'une vision de société sécuritaire. C'est pas simplement, je dirais, pour se faire plaisir que je dis ça. Il y a une vision sécuritaire dans la Macronie qui est de décaler tout ce qui était du registre du régalien vers le privé, soit les services, soit vers les boîtes privées, soit vers les polices municipales. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire une émission. On l'a fait d'ailleurs, merci Adil. On a eu l'occasion de débattre là-dessus. Et une histoire de bonne ou de mauvaise foi, c'est juste concret, réel. Il y a eu des départs, il y en a eu énormément. Sarkozy, effectivement, a supprimé un fonctionnaire sur deux, donc un policier sur deux. Macron n'a absolument pas rétabli l'assiette, et au contraire, pardon, au contraire, ça continue. Les commissariats ferment, ne me dites pas que c'est pas vrai.
Moi, je suis comme Michel Taube, j'ai tendance à dire plutôt, évidemment.
Alors, mais vous ne les connaissez pas, les commissariats, je suis désolé.
Vous ne pouvez pas dire qu'on ne les connaît pas. On a fait.
Mais non, mais les chiffres, je suis désolé.
Augustin. Augustin Vargas.
Ce qu'il faut voir, c'est le nombre de policiers qu'il y a sur le terrain, je pense. Il ne faut pas avoir d'un point de vue. Parce qu'il y en a beaucoup dans l'administratif. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est que peut-être qu'il faudrait plus de policiers sur le terrain. Parce que l'administration de l'intérieur, oui, c'est un mammouth aussi.
Oui.
Bon, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a autant de policiers sur le terrain, voire plus sur le terrain qu'avant.
Mais non, alors, mais je vais libérer Michel. Il faut que je libère Michel. Michel, oui, Michel Taube.
Attendez, je vous en prie.
Si vous n'êtes pas pressé, je vous retiens quelques minutes encore, il n'y a pas de problème.
Avec grand plaisir. Ça fait des années qu'on nous promet, mais ça remonte à même avant Macron, un choc de simplification qui devrait permettre effectivement aux fonctionnaires d'aller plus sur le terrain, plus au contact des Français. J'ajoute quand même une chose, c'est que dans le discours de Gabriel Attal, qui est quand même le sujet du jour, aujourd'hui, il a quand même beaucoup, il n'a pas parlé de la politique de la ville, et je le regrette, mais il a parlé de
c'est vrai. Il a fait allusion au logement, c'est vrai.
Mais politique de la ville, plus généralement, c'est pas qu'une question de logement, c'est aussi une question de bien social, de reconnaissance des populations, de diversité de la société française. Mais bon, mais sur, il a parlé des services publics. Il en a parlé. Je trouve que c'était assez audacieux, notamment sa proposition de la semaine en 4 jours, c'est-à-dire de proposer à des fonctionnaires de faire leur semaine de travail, leurs 39 heures ou leurs 35 heures en 4 jours. Voilà, il y a eu quelques propositions. Mais encore une fois, je le dis, je pense que, un, il y a de l'énergie. Deux, il y a trop de promesses, trop de saupoudrage de mesures qui vont un peu dans tous les sens. Et trois, il y a quelques trous dans la raquette. Mais grosso modo, moi, je considère que son grand oral, il est à peu près réussi. Mais je vais vous dire, ça ne va pas changer grand-chose, hein. Malheureusement, pourquoi ? Parce que, un, au Parlement, la Macronie n'a toujours pas de majorité absolue. Et ça n'est pas près d'arriver. Les européennes s'annoncent très très mal pour la Macronie. Et deux, évidemment, beaucoup de choses ne se décident plus à Paris, mais à Bruxelles ou ailleurs. Et moi, je suis pour une très très grande loi de décentralisation qui donnerait aux pouvoirs locaux un maximum de pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'a promis Gabriel Attal.
Merci mon cher Michel Taube, le directeur fondateur d'Opinion Internationale, mais également aussi éditorialiste. Merci Michel.
Merci cher Aldi, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Absolument, merci à vous. On continue, le débat continue, je vais distribuer la parole et puis surtout je veux vous saluer. Augustin Vargue, bonjour, entrepreneur, comment ça va ?
Très bien, et vous-même ?
À vos côtés, Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aussi comédien, bonsoir.
Rebonsoir,
absolument.
Surtout comédien aujourd'hui d'ailleurs.
Ce soir précisément peut-être.
Le porte-parole des écologistes Les Verts, il est avec nous. Il s'appelle Monsieur Hamou. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Très bien.
Vous venez de loin, je crois, il me semble.
Je viens de Marseille. Bon.
Marseille, vous êtes Marseillais.
Voilà,
vous allez vous entendre puisqu'il est Marseillais.
Ok.
Voilà, absolument. Il est Marseillais.
Quartier nord de Marseille.
Ouais, exactement.
C'est là où j'ai grandi.
Saint-Antoine.
Ouais. Ok. On va vous laisser après.
On va vous laisser. Ouais,
Marseille, hein. L'OM et tout. on est d'accord. À vos côtés, c'est Michel Fayad, analyste politique. Ça va ?
Bonsoir, merci.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Autre journaliste, c'est Merwan Mioubi. Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite après.
Déjà ?
Oui, il est 19h13, mon ami. Hein. Ça fait 10 minutes que vous parlez déjà. Pour parler du discours de Gabriel Attal. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Avec 19h18, si vous souhaitez évidemment réagir au discours de Gabriel Attal, vous pouvez 01-53-48-3000. Jean-Pierre Colombiès. Ensuite, évidemment, nous avons Augustin Vargue, un Marseillais qui est avec nous, c'est Hassan Hamou, analyste politique Michel Fayad et enfin Merwan Mioubi. Un petit extrait, juste pour vous replonger.
Se remettre dans le bain.
Se remettre dans le bain, mais surtout vous replonger au sein de cet hémicycle Assemblée Nationale, même si ça vous fait sourire, Jean-Pierre Colombiès, parce que je sais que vous êtes remonté. Écoutons ce court extrait.
Mesdames et messieurs les députés, le propre de toute société humaine, c'est de regarder en face l'avenir qui se dessine devant elle, interroger son modèle, puiser en soi les ressources suffisantes pour avancer, corriger ce qui doit l'être, construire les bonnes solutions. Une société ne se perd jamais quand elle cherche à avancer. Une société ne se perd jamais quand elle doute. Elle perd quand le doute l'emporte sur tout le reste. Quand le doute glace, quand il fige, quand il conduit à douter non pas de l'avenir qui se dessine, mais à douter de soi-même, de ses forces, de ses capacités. Je suis né...
Il a donné le cap, comme disait Michel Taube tout à l'heure. Tiens, je vais m'adresser aux Marseillais, le porte-parole des écologistes Les Verts, Hassan Hamou. Alors, quel regard porte-t-on depuis Marseille ?
Enfin, depuis Marseille, je ne sais pas, mais en tout cas, depuis
son discours. C'est important, c'est vrai. Comment il est accueilli ?
Il est accueilli comme, effectivement, Attal a des qualités certaines. C'est celui de pouvoir, dérouler devant une assemblée un tas d'idées, les unes derrière les autres, bien présentées. En réalité, il y en a eu pour tous les goûts. Dans ce discours. La seule difficulté, c'est qu'on s'aperçoit...
On ne peut pas lui retirer, il est bon, Hassan Hamou. Dans la rhétorique, dans la manière d'appeler
les choses. Il est très bon dans la rhétorique.
Le mec, c'est vrai, c'est une de ses qualités. Il est bon.
Il était porte-parole, il exerce son art, et son art, c'est la parole, et il sait très bien le faire. Il sait très bien le faire.
Soyez pas jaloux.
La seule difficulté, c'est que... La seule difficulté, c'est qu'il n'a pas...
C'est un exercice qui n'est pas simple non plus.
Ils n'ont toujours pas de majorité, même après ce discours, que, en fait, c'est un discours pour ma part, que je pense ultra-réactionnaire. Il rend les écologistes coupables de tout.
Oui,
il survole les sujets sans rentrer dans le détail de leur mise en œuvre et leur application. Il a un horizon en 2026, mais on ne sait pas, parce qu'encore, voilà, il y a une majorité qui bat de l'aile et donc qui fait comme s'il avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est une promesse de gascon et on verra bien dans la mise en œuvre ce que ça va donner. Je lui rappelle qu'il a encore une crise sur des agriculteurs sur les bras, qu'il a un tas de sujets pas traités, que sur la question des quartiers prioritaires, des villes, il se passe toujours rien et qu'il ne suffit pas pour être écologiste de dire je fais de l'écologie populaire 4 fois d'affilée pour nous faire croire que c'est un écologiste convaincu. La vérité, c'est que dans les actes, on reste un peu sur notre faim et que le gouvernement ne trompe personne entre leur...
Vous écoutez parler, il n'a pas réussi du tout son discours.
Je ne dis pas qu'il n'a pas réussi, mais c'est que les actes, en fait, parlent en leur défaveur. Ça fait 7 ans qu'ils sont là. Ils ne sont pas arrivés hier.
Ah, ça, c'est sûr.
Donc,
c'est sûr que quand on a deux Marseillais sur le plateau, effectivement...
Il peut donner un sentiment, de nouveauté, si vous voulez. Alors, son âge, peut-être.
Mais je ne sais pas ce qu'il y a de
mieux. Qui jette à la figure de tout le monde.
Je vais m'adresser à mon voisin, qui sera peut-être plus nuancé, j'en sais rien.
Peut-être plus modéré.
L'analyste politique, justement, Michel Fayad. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours de Gabriel Attal, du Premier ministre ?
Déjà, l'extrait que vous avez montré, moi, il m'a semblé plutôt un sermon.
Ouais. Parce que ça fait très pasteur évangélique un peu. Ouais, on est d'accord.
Parce que concrètement, c'est pas un programme politique ou économique ou social qui a été présenté. C'est véritablement un sermon qui a été
Macron
fait.
Macron fait un peu pareil dans ses prises de parole souvent.
Moi, ce que je pense, c'est que il est dans la phase un peu. Disons de lune de miel vis-à-vis des Français. Donc les Français le voient un jeune, dynamique, qui parle bien, avec un bon communicant. Enfin, il est doué.
Ça rappelle quelqu'un. Quand même.
Mais le problème, c'est que comment ?
Ça compte,
bien sûr.
Après, attendons de le voir à l'œuvre.
Mais justement.
C'est maintenant que ça commence.
Mais justement, si on veut le comparer, par exemple, avec Sarkozy ou avec Macron avant lui, je pense que Sarkozy et Macron avaient plus de temps. Aujourd'hui, en France, les crises se sont accentuées, sont devenues encore plus graves.
Mais c'est pas la faute de Macron. Hein.
Non, je dis pas c'est la faute de qui. Ce que je dis, c'est simplement, c'est que maintenant il fait face à. Et en fait, il n'a plus le temps. Et les Français vont le juger déjà au moment des élections européennes.
Ça va être dur, hein.
Et c'est ça.
Ça va être dur pour les macronistes.
C'est trop tard.
Et si ça reste du blabla et que ça passe pas au niveau des mesures concrètes, ça va être compliqué. Et je vais vous donner juste un exemple. L'histoire là des agriculteurs. Vendredi, il s'est entendu là sur un des barrages. Ça a été levé. Puis tous les autres ont dit mais 64. Ce sont des mesurettes. Ça vaut rien. Donc où sont les mesures? Où sont les réformes? Donc en fait, c'est ça qu'on remarque, c'est que dans un premier temps, on est attiré par le gars. Il est intéressant. Il parle bien. Il est un bon communicant. Puis après. En grattant un peu, mais en fait, c'est vide, il n'y a rien.
C'est mieux
présenté que, que les premiers ministres précédents, c'est, voire même c'est neuf par rapport
techno,
à Macron.
Ça fait moins techno. Ça fait moins techno.
Ça fait moins techno, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça fait moins techno.
Ouais, mais y a pas besoin.
Il a une tête dedans. Et franchement, on en avait besoin. On en avait besoin aussi. La France, ça fait du bien.
Je suis pas d'accord. On n'a pas besoin de la piste.
Arrêtez, Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai. Ça fait du bien.
On n'a pas besoin de la piste aux étoiles. On a besoin d'hommes d'État. C'est tout.
Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais on avait besoin d'un peu moins de techno. On avait besoin d'un homme d'action. Un peu quelqu'un qui fasse agiter la marée.
Même s'il fait
semblant. Il va démarrer.
Gabriel Attal n'incarne en rien l'action. Je veux dire, à chaque fois qu'il a été à des responsabilités, il est resté quelques mois et au final, il n'est que porte-parole de Macron, de la politique que Macron veut engager. Donc voilà, pendant une heure et demie, il a enfilé les perles. Donc plein de bons sentiments, de gentillesse. Oui, il faut aider tout le monde. Alors il faut du nucléaire, il faut de l'écologie, il faut ceci, il faut cela. Donc voilà, on caresse tout le monde dans le sens du poil. C'est du Macron. Il est jeune, c'est du Macron. Et pour le reste, voilà.
Et pour répondre à mon voisin de droite,
Augustin,
il ne vient pas d'arriver. Je vous rappelle qu'il était chargé de la mise en place du SNU, qu'il était au ministère du
Président. Alors, je donne la parole à Augustin.
C'est
un peu facile de venir.
Mais bon, une note plus positive. Si franchement, parler pour répondre aussi, comme ça, il nous répondra tous les deux, notre ami Augustin. Si vraiment dire que ces ministres sont sur le terrain, moi, je te l'accorde très facilement. Il est vrai qu'aujourd'hui, la manière de faire la politique.
C'est
bien. Non, mais
en fait,
c'est pas la marque de fabrique de Gabriel Attal, contrairement à ce que tu peux dire. C'est la marque aussi de Darmanin. C'est la marque du ministre de la Justice qui n'a pas arrêté de faire des déplacements. Je crois que c'est l'un des ministres de la Justice qui a son actif en peu de temps le plus de déplacements sur sa délégation et son périmètre. Prisons. Et en fait, effectivement, il y a des choses qui réussissent bien. Moi, je suis un enfant des quartiers nord de Marseille. Je peux vous dire que le plan que Emmanuel Macron a mis en œuvre à Marseille, c'est un plan sans précédent. Et on est plutôt content à Marseille.
Mmh. Ah, ça fait plaisir à entendre.
Non, ça met du temps d'appliquer.
Moi,
Marseille, c'est pas la France. Et que sur tout le reste, il est en échec. Et que, en fait, ça part dans tous les sens, comme dans ce discours et comme les politiques
essaient de
Parce que je pense jusqu'à maintenant, il avait beaucoup d'angles morts sur notamment sur les domaines régaliens, notamment sur le domaine de la ville, la sécurité, la diplomatie. On pourra aussi en revenir. Il y a plein d'angles morts. On est fâché avec quasiment tous les pays. Donc avec Gabriel Attal, on a plus de terrain, on a plus d'authenticité. Sachons lui gré qu'il a plein de bonnes volontés, que c'est quelqu'un qui veut réussir. Il a un discours, un catalogue à la Prévert, mais derrière, il manque aussi des ministres aussi. On va voir, il y aura un remaniement, dans quelques jours.
C'est l'histoire de quelques jours.
Donc voilà, c'est quelques jours.
Une série de secrétaires d'État et quelques ministres.
La fumée blanche va arriver.
Je peux vous le dire.
Donc
on me l'a glissé à l'oreille.
Après, je pense que il va avoir des ordonnances, des 49-3, c'est sûr.
Bien sûr.
Mais laissons infuser les choses.
De toute façon, la série d'annonces qu'a fait aujourd'hui Gabriel Attal, la vérité, c'est qu'un nombre de mesures qu'on a listées aujourd'hui dans son discours sont gouvernables par décret. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui va pouvoir
très ordonnance, décret.
Mais moi, ce qui me dérange dans le discours qu'il a tenu aujourd'hui à la tribune, c'est que en fait, il voulait satisfaire et c'est je sais plus qui disait qu'il faisait du macronisme du en même temps, à la fois l'extrême droite, à la fois le centre. Il s'est attaqué au pire symbole, l'assurance chômage, le RSA, l'uniforme, la généralisation
la
de l'extrême. Non, mais c'est pas la jambe droite,
c'est la jambe de l'opinion.
C'est la jambe extrême droite.
Quand
tu t'attaques au symbole, quand sur l'immigration, quand tu t'attaques à l'appauvrissement des gens qui touchent l'assurance chômage, je suis désolé.
Et vous répond Augustin, c'est la droite.
C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ces mesures.
Sur la loi immigration, je suis désolé.
Écoutez-le.
Ceci dit, je pense que c'est la jambe droite. Après, peut-être qu'il va, avec le remaniement, il va avoir peut-être une petite jambe gauche. Certes, il y aura peut-être un problème de strabisme.
Légère.
Après, effectivement, il a besoin de l'aile gauche. Oui. Et puis en plus, le MoDem est un peu déçu de ce qui se passe par rapport aux premières nominations. Horizon aussi. Donc attendons de voir un peu tout ça.
On va sentir qu'il a besoin de la droite.
Vous n'êtes pas d'accord?
Non.
Bah dites-nous.
Parce que je pense
Michel Fayad.
Parce que je pense qu'aux élections.
Et après, je vais diffuser un deuxième extrait.
Je pense qu'aux élections européennes.
Ça va être chaud. Hein.
Oui, mais il y a le Rassemblement national qui joue un peu la carte de l'extrême droite avec Reconquête de Zemmour.
Et il y a le, déjà à gauche, il y a donc les écolos, il y a la France Insoumise, le PS, et le Parti Communiste, etc. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, Macron, pour essayer d'avoir le score le plus haut possible aux élections européennes, parce que ce sont les élections européennes, il va avoir un discours UDF, comme à l'époque. Non, vraiment, dans le sens...
C'est vrai, je suis d'accord avec ça.
Comment ? Ils font 20, là, dans les sondages. Le discours UDF de l'époque, c'était 8%, quoi. C'était
Non, je suis désolé.
C'était l'agent
non,
de l'UDF.
Excusez-moi, mais c'est non, pas vrai. Non. Quand l'UDF, c'était par exemple Simone Veil.
Ah ouais, mais là, c'était pas...
Il y a 30 ans, monsieur. L'UDF, ils ont cartonné à l'époque.
Même Dominique Bottis. Même à l'époque, Michel Barnier, il était beau RPR. Donc, il avait un discours UDF.
Donc en fait, beaucoup de RPR à l'époque, ils étaient UDF.
Bien sûr.
Mais c'est ça. Donc en fait, l'UDF, quand je dis UDF, c'est quoi? C'est une politique de centre droit.
Centre droit.
Qui est européenne. À fond pro-européen.
Ouais, c'est ça.
Et donc aujourd'hui, Macron, il sait que s'il veut avoir le score le plus haut possible aux élections européennes, c'est pas à gauche, c'est pas à l'extrême droite, c'est à l'espèce de centre droit qui était l'ex-UDF. Et donc il va jouer jusqu'aux européennes. La carte.
Une personnalité politique de l'époque?
Non,
c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est quand même ce qui nous a conduit à la situation économique dans laquelle on est. Ça veut dire que vous êtes, ils sont toujours dans une idée qu'il faut plus d'Europe, l'Europe qu'on a vue et qui a conduit à la crise des agriculteurs qu'on a là, mais une crise encore plus grave, c'est la crise du marché européen complet, français, allemand. Tous les Européens, tous ceux qui détiennent de l'euro dans leur poche sont en train de paniquer là, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer.
À laquelle je rajouterai une crise identitaire majeure.
En plus,
parce que quand cette Europe a été créée, c'était une Europe des marchés financiers, il faut être très clair.
Bien sûr, clairement. Et on voit le résultat.
Et on a oublié qu'il existait des nations. Et l'idée globale, c'est quoi? C'est de faire de l'ensemble des citoyens, qu'ils soient d'Europe ou du monde, d'en faire des citoyens du monde, un peu. L'idée un
reliser,
peu, je dirais...
Relisez les mémoires de Gaulle par Alain Perfit. Et De Gaulle
Alain
qui dit
Perfit,
oui bah c'est un peu vieux, je suis désolé, mais c'est une référence quand même. C'est une référence. Relisez sur le fait que il ne fallait pas faire une Europe pour les multinationales ou qu'il soit un cheval de Troie pour les États-Unis, disons-le, mais une Europe des nations. Or là, on est à fond sur l'Europe, des multinationales, et pour que la France en particulier soit un marché.
Je vais vous donner la parole. Je veux juste écouter un deuxième extrait, toujours Gabriel Attal,
très court,
à l'Assemblée. Bien sûr, toujours très court, mais évidemment, parce qu'on est là pour réagir.
Vous nous avez parlé.
Parler aux Français, c'est au fond entendre quatre appels à l'action. Pour le travail, pour qu'il paye mieux et toujours plus que l'inactivité, partout et pour tous. Pour nos services publics, pour qu'ils soient accessibles et de qualité, partout et pour tous. Pour l'autorité, le civisme, le respect des droits et devoirs, partout et pour tous. Pour un environnement plus respirable, partout et pour tous. Et je veux l'affirmer, nous n'avons pas à renoncer aux grandes conquêtes et à la création de droits nouveaux.
Alors, il parle évidemment pour tous, pour tous, pour tous. Il faut démiscardiser.
Je pourrais répondre vite fait. Mais j'aurais voulu lui répondre vite fait.
Allez-y, parce qu'il faut qu'on avance.
Écologique, parce que.
Hassan Amou. Votre collègue compatriote de Marseille.
Oui, mais alors avec lequel il y a un point, je suis absolument pas d'accord.
Bah, allez-y, vous avez raison.
C'est-à-dire que dès que c'est bien que les Marseillais soient pas d'accord. Et globalement, ce reproche, je le fais d'ailleurs à l'ensemble de la gauche française. C'est que dès qu'on parle des notions sécuritaires, vous avez les poils qui se hérissent. Vous avez les.
Et on est d'extrême droite.
Voilà. Et vous êtes d'extrême droite. Et moi, je suis désolé. Il y a un problème sécuritaire dans ce pays.
Et ben, il va vous
répondre. Parce que les lois ne sont tout simplement pas appliquées. Et on a même fait un débat très long là-dessus. Et je remercie encore une fois Adil. Ça fait trois fois que je remercie Adil.
Mais avec plaisir.
Sur... On brosse à relire.
Non, mais sur le fait. Non,
c'est vrai qu'on a fait une belle émission là-dessus.
La gauche s'est décrédibilisée en renonçant à ces thèmes sécuritaires durs. Parce que je suis désolé, il y a des problématiques d'immigration, faut le dire, l'immigration sauvage qui ne rend pas service à une immigration assimilée. Et ça, si on n'en a pas conscience,
Hassan Amou, le porte-parole, va vous répondre.
D'abord, vous parlez de l'UDF, vous parlez des sortes de choses.
Non,
etc.
Ça c'est Michel Fayad.
Ouais, non, mais je fais.
Là, il vous dit que vous êtes frileux sur la question sécuritaire. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce que vous lui répondez?
Je vais vous répondre, mais je prends le temps de la réponse. C'est juste vous expliquer ceci. Quand vous vous attaquez à des symboles comme celui de la loi immigration en y mettant la déchéance de nationalité, ou de faire des espèces d'apatrides.
Non,
des espèces d'apatrides jusqu'à 17-18 ans où ils vont devoir choisir leur nationalité. Et donc, en fait, vous vous attaquez
à ce vieux démon, de vieux débats que justement des grands monsieur et des grands hommes de l'histoire de France, à droite comme à gauche d'ailleurs, avaient à l'époque, s'étaient attaqués à ça et avaient trouvé qu'ils tombaient tous dans la même impasse. Mmh. Et qu'on créait cette espèce de France de seconde zone, etc. Vous ne pouvez pas dire qu'en fait, c'est que, qu'une histoire des, où on s'hérisse le poil ou je ne sais quoi. La vérité, c'est que Emmanuel Macron, depuis un certain temps, reprend des thématiques qui ont figuré d'ailleurs dans les programmes de l'extrême droite, etc. Qu'il a, l'uniforme, c'est là aussi un vieux serpent de mer de l'extrême droite. Vous ne pouvez pas dire que là aussi on l'a inventé. Le premier, la première fois qu'on parle de l'uniforme, la première fois qu'on parle de l'uniforme, c'était dans l'un des programmes de Le Pen. On a retrouvé des tracts où lui en
parlait.
Pourquoi
c'est faux ? L'uniforme, c'était vous l'avez vendu ici sur notre antenne.
C'était dans l'école. L'uniforme, c'était dans la bourgeoisie. C'était dans la bourgeoisie française qui était largement répandue. Ça n'a jamais existé dans l'école publique. Et derrière, sur la sécurité, laissez-moi finir. Non, mais la blouse, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait pas le même symbole que l'uniforme. Ne trompez pas les gens quand vous parlez. Je vais juste aller au bout de mon idée. Derrière, vous parlez de la sécurité. Je viens d'une ville, l'une des villes les plus criminogènes
il
de France.
Il la connaît, hein, il a
Marseille, travaillé pendant 15 ans. Je la connais, j'ai un collectif qui s'appelle Trop Jeune pour Mourir.
Il était commandant de la police, là-bas.
Je vois la préfète de police la semaine prochaine, elle sous-préfet Yannis Madame Bouzoir. Camilleri, oui. Et j'étais au Sénat sur ces questions
qui
de sécurité.
Que par des CRS.
Et on travaille. Non, faut pas dire ça, parce que j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, à Madame mais je pense qu'elle a une certaine profondeur, et je suis pas d'accord avec elle, surtout.
Alors, on est pas là pour parler, évidemment,
sur la sécurité. Moi, je trouve qu'il faut plus de policiers à Marseille, par exemple. Et c'est pas l'avis de tous les écologistes. Voilà, donc ne m'instrumentalisez pas et ne dites pas que ça m'hérisse le poil. Au contraire, je suis très réaliste sur ça.
Alors justement, non mais c'est même pas vous, Hassan Abou, c'est plutôt les écolos.
Oui, non, mais c'est les écolos. On abandonne
tous les écolos.
Pause et on retrouve évidemment. Vous savez, je veux qu'on parle de ce qu'il vient de dire Gabriel Attal avec les différents extraits. Que doit-on comprendre ? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Suite et dernière ligne droite concernant les informés où on commente, on continue de commenter cette émission spéciale concernant le discours de Gabriel Attal devant les députés au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il est 19h40. Jean-Pierre Colombet est avec nous. Augustin Vargues, le porte-parole de Europe Écologie Les Verts, pardon, j'y ai arrivé. Non, pas du tout. Non. Très bien,
Sandrine.
Hassan Amou, l'analyste politique Michel Fayad et enfin Merwan Mioubi, le journaliste. Messieurs, vous avez écouté cet extrait. Je voudrais vous entendre. Tiens, Merwan.
Sur l'extrait.
Sur l'extrait, puis globalement, sur le travail, sur
famille,
le
travail.
Oui, travail. Ah oui, ça nous rappelle
des vieux souvenirs. La France.
On en parlait un petit peu là pendant la pub. Il y a une idée de vouloir désengager de l'État un petit peu de toute la fonction publique, mais on oublie que, enfin, sont les impôts qui payent ça, et on paye de plus en plus d'impôts. Je crois qu'on est le pays qui paye le plus d'impôts. Mais où va cet argent, en fait? C'est ce que les Français aimeraient savoir aussi, parce que donc on a plein de belles promesses. Comment on va les financer avec plus d'impôts? Donc quelque part, on va aussi appauvrir les Français, et on va aussi conduire à plus de chômage aussi, parce que malheureusement, on n'embauche plus en France. Et ça, on oublie de le dire, parce qu'on a massacré tout le tissu industriel français, que les petites entreprises, les TPE, PME qui engageaient en masse, ne peuvent plus engager, ils n'ont plus les moyens. Où va ce gouvernement? Et je pense, comme depuis le premier mandat, depuis le premier jour d'Emmanuel Macron, ils ne savent pas où ils vont. Voilà. Ils font tout. Facile, certes, mais.
Oui, il a raison. Puis je rajoute que.
Augustin Vargues.
2023, ça a été l'année malheureusement record des faillites d'entreprises. Oui, ce qui est une indication aussi dans l'économie.
Ah, oui, bien sûr.
C'est pas bon. Donc là, on attend aussi le volet pour les entreprises. Après la désmicardisation, bon courage, ça va être quoi? Des gels de cotisations pour
les promesses n'engagent que ceux qui croient.
Un SMIC, deux SMIC, trois SMIC.
On est dans l'incantation, on n'est pas dans le programme.
J'appelle Colombier, si
on est dans l'incantation, c'est des vœux pieux, quoi. Alors on est entre le Barnum, on est entre un peu de cirque, un peu de spectacle. C'est vrai qu'il est très doué. Moi, je trouve qu'il est très doué en termes de prise de parole. Il improvise bien. Il fait le show. Maintenant, le concret, moi, je suis désolé, je suis pas d'accord quand on dit faut lui laisser le temps. Non.
Oui, il faut lui laisser le temps.
Il est dans l'équipe Macron depuis le début, depuis 2017.
On verra la mise en œuvre. Laissons-lui mettre le temps de la mise en œuvre.
Et les premiers ministres, là.
Il vient d'arriver, il fait du terrain, il est à peu près.
C'est le chef du gouvernement.
Laissez-lui le temps. Franchement.
Il n'est pas forcé, non, je crois. Il n'est pas menacé. Il n'a pas été menacé pour être premier ministre.
Vous jugerez dans quel
après, c'est peut-être pas la bonne période, en effet. Je pense que.
C'est pas bon mec surtout, c'est pas le bon mec.
Non, mais qui aurait été le bon mec là?
Ah, je sais la pas, bonne, mais si la on bonne pose femme, la question à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin, on aura une autre réponse.
Mais d'accord, ouais. Mais je suis pas sûr qu'ils auraient fait mieux ou qu'ils fassent mieux.
C'est pas mon souhait.
Le maire.
Non, mais c'est pas mon souhait.
Le maire, il est occupé avec la guerre.
Le maire, il avait dit
fait la guerre, l'économie russe.
La Russie serait asséchée.
À genoux, l'économie russe.
Michel Fayad. Et ensuite, après, Hassan Amou.
Moi, je pense qu'il n'a pas parlé de compétitivité. Et d'un point de vue économique, c'est ce qui est demandé. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est plus compétitive. Elle a un déficit commercial qui est en fait perdure depuis des années. Mais plus grave encore, pour la première fois de l'histoire de France, et j'insiste, donc ça veut dire depuis Clovis, depuis 1000 ans.
Ça remonte loin.
Dans le secteur agricole, la France est également en déficit commercial.
Donc la France. Bah, paraît-il que non, elle est excédentaire.
Oui, grâce au vin, grâce à l'importation.
Voilà, merci. Ben si, vous trompez, monsieur le ministre politique. Surveillez vos chiffres.
Si, on est excédentaire.
La France, je vous le dis, monsieur Michel Fayad.
Laissez-le finir, nom de Dieu.
L'agriculture française est excédentaire.
Il n'a pas terminé. Mais justement. Premièrement, c'est parce qu'on inclut les spiritueux. Et comme vous le savez, dans les rapports internationaux, on n'inclut pas les spiritueux. Les spiritueux, c'est une catégorie, et le reste des produits agricoles, c'est le reste. Et dans ce cas-là, l'agriculture est déficitaire.
La viticulture, c'est grâce à la viticulture.
Et donc, ça dépend comment vous, sous quel angle vous la voyez.
Mais le problème, il y a un problème, général de compétitivité. Parce que la France,
c'est
un déficit commercial chronique. Pas seulement au niveau agricole, mais au niveau économique en général. Donc il y a ce problème de compétitivité qui doit être réglé. Et ce problème de compétitivité, il est lié à un problème politique qui est au niveau européen. Vous avez entre 60 et 80% des lois françaises qui sont en réalité des directives européennes votées en France.
C'est Bruxelles.
Oui. Donc aujourd'hui, la compétitivité, elle est liée également à toutes les réglementations européennes qui ont été imposées. Par exemple, on le disait aussi au début, comme quoi, par exemple, le poulet ukrainien qui vient après 2 ans, qui a été dans le frigo pendant 2 ans et qui vient être vendu dans les supermarchés pour rien, le mouton néo-zélandais ou je ne sais quoi.
Bien sûr.
Tout ça, ça doit... En fait, soit on a une compétitivité saine, c'est-à-dire les produits français qui sont fabriqués en France, ils ont subi les mêmes règles que les autres produits, ou alors il n'y a pas de compétitivité saine, et là c'est catastrophique, on est dans cette situation.
Donc vous regrettez qu'il n'ait pas suffisamment parlé de compétitivité.
Le ministre de l'Agriculture est à Bruxelles pour régler des choses.
Mais pour réellement changer les choses, il faut changer les choses au niveau européen.
Mais tu peux désobéir au niveau européen.
Mais il a pas tant, c'est vrai. Tu peux même la France a le droit d'être
L'Espagne et le Portugal se sont désengagés pour l'électricité, le marché de l'électricité commun.
Parce que le marché de l'électricité commun, ça fait pas partie des règles obligatoires communes. Mais les 60 à 80% des lois que j'ai dites, en fait, c'est 60 à 80%, ce sont des directives obligatoires.
Ah oui, d'accord.
Il y a une différence.
Il y a des directives obligatoires et
des directives qui ne le sont pas.
Obligatoires.
Il y a un peu à la carte, il y a de l'obligatoire. Moi, je parle de ce qui est obligatoire. Okay. Et là, ce qu'il faut changer, c'est justement dire, écoutez, il y a certaines choses qui, en fait, rendent la France non compétitive. Et donc, on veut revenir là-dessus pour relancer l'économie française. Parce que tant qu'on ne revient pas sur l'idée de la compétitivité française, on ne pourra pas durablement détruire le chômage, etc.
Hassan Amou, on ne l'a pas entendu, parce que vous savez quoi, la tête de liste écologiste aux européennes, Marie Toussaint, hein, votre collègue, elle a chargé au niveau de son tweet, hein, j'ai vu, hein, démocratiser, accueillir moins pour accueillir mieux. Mmh. Si la composition du gouvernement avait pu laisser planer le moindre doute, donc le discours de politique générale le confirme, la fusion du sarkozysme et de la start-up nation est désormais complète. Marie Toussaint, votre
exactement
collègue.
Ça rentre
tout ça dans un tweet.
Ouais, elle doit être authentifiée pour que tout ça rentre. Non, mais je suis entièrement d'accord avec notre tête de liste, et c'est exactement le constat que je fais aussi. C'est que habilement, il a repris un certain nombre de thèses, d'idées, et je vais le dire au point de dérisser par contre le poil de mon ami sur ma droite, mais de l'extrême droite. Et en ce qui concerne les directives.
Non, mais dès qu'on n'est pas d'accord avec
ces gens-là, on est
extrême droite. L'extrême droite a fait partie du.
Pardon ?
C'est quoi l'extrême droite ? C'est quoi l'extrême droite ?
Bah, c'est une référence au Rassemblement national, peut-être.
Moi, j'aimerais avoir une définition claire de la
citation. À mon avis, il faudra plus qu'une émission, mais bon.
Je suis pas capable de dire que le racisme en 2002 n'était que du théâtre.
On peut faire semblant.
Lionel Jospin, toute lutte contre le racisme en 2002 n'a été que du théâtre. Lionel Jospin. Ouais. Voilà. Donc à un moment donné, il faut percer l'abcès.
Continuons.
S'il y a des choses intéressantes à prendre, il faut les prendre. En tout cas, il faut traiter les questions sérieusement et il faut pas se cacher.
C'est tout. On peut parler de sécurité sans qu'on soit d'extrême droite.
Ne vous cachez pas.
Pas se cacher.
D'abord, on se cache pas. Deuxièmement, on peut effectivement parler de sécurité, d'immigration, sans être obligé de casser ces digues là et reprendre toutes les thèses foireuses de l'extrême droite.
Personne ne dit de reprendre les thèses.
Mais c'est ça qui se passe en fait. C'est ça qui se passe parce qu'on en a parlé tout à l'heure pendant la pub. Je te parle de l'uniforme et on a vite atterri sur le sujet des moyens dans l'école publique.
Ah, il faut traiter
parce que c'est ça les sujets concrets.
Mais alors,
c'est
pas sur ce terrain-là.
Le détournement du regard ou la diversion par l'uniforme.
Mais il faut pas l'esquiver. Il y a des sujets de fond.
Jean-Pierre Colombier.
Quand la Tunisie lutte contre l'immigration subsaharienne, c'est pas l'extrême droite.
Tous les pays qui ont des frontières.
Non, mais on peut toujours. L'immigration clandestine, c'est d'extrême droite.
On peut toujours se comparer au pire. On peut toujours se comparer au pire. On est le pays des droits de l'homme et des lumières et on se plaît à le revendiquer sur tous les plateaux, etc.
Ben
justement, la meilleure façon de se protéger, c'est de faire la politique du pire ou de s'inspirer des pays qui pratiquent des politiques.
Messieurs, dernier extrait, parce qu'après il faut aller vite parce que j'ai le quad neuf qui nous attend. Dernier extrait.
La France rime avec puissance. La France, c'est un repère, c'est un idéal, c'est un patrimoine témoin d'une histoire millénaire. C'est un héritage moral, celui de la patrie où sont nés les droits de l'homme, celui d'un modèle social protecteur, envié dans le monde entier. La France...
Justement, un petit tour de table, est-ce qu'il répond concrètement? Alors, il dit la France, la grandeur, mais revenons à ça, ma question est très simple. Je voudrais que vous soyez très court et clair et concis, s'il vous plaît. Est-ce qu'il répond aux agriculteurs ce soir?
Non.
Qui veut prendre la parole?
Non.
Non, à Saint-Rémy.
Non. J'ai dit non, c'est très court, non?
Donc, ça risque de bloquer encore plus.
Non seulement ça bloque, mais il y a les agriculteurs qui ont quelques minutes maintenant, en suivant le fil info, qui gagnent la capitale. Ils sont à proximité de Rungis.
Ils sont à Beauvais.
Ils
sont pas très loin.
Il faut bloquer.
Ils sont à proximité, vous avez raison. Michel Fayad.
Non, il répond pas aux attentes des agriculteurs. J'aimerais répondre sur les questions sécuritaires.
Non, mais c'est bon, on est sur les agriculteurs maintenant. On continue sur les agriculteurs.
Sur les agriculteurs.
Michel.
Oui, non, il leur répond pas de toute façon. Et je pense qu'il avait pas pour idée de leur répondre. Il fallait juste essayer d'habiter.
Il répond pas provisoirement. Peut-être en attendant un catalogue plus fourni de mesures en fonction de la grande montée.
Comme ça vient d'être très, très doctement rappelé, il ne peut pas répondre.
Il ne peut pas répondre.
Pour l'instant.
Parce que les accords sont internationaux.
On se retrouve
tout simplement.
19h50 et on est à l'heure.
Dans le
franchement,
cadre
merci. Libre-échange. Vous avez été clair et concis. Je voudrais lancer juste le quad neuf. C'est comme tous les mardis. Vous savez, on a des signatures de nos éditorialistes. C'est Louis Bachou, 88 ans, qui nous signe des papiers autour de l'actualité. Notamment. Écoutez ça.
Les informés. Les informés. Le quoi de neuf.
J'ai voulu savoir ce que la future population mondiale, celle de 18 à 35 ans, souhaitait par rapport à celle de la France. Le Forum économique mondial, WEF, fait un sondage annuel de ce que l'on appelle les milléniaux. Il a récemment publié son sondage annuel qui sonde les jeunes sur leurs priorités, préoccupations et attitudes à travers le monde. Pour cette étude, plus de 31 000 personnes âgées entre 18 et 35 ans, originaires de 186 pays, ont été interrogées sur l'emploi, la confiance qu'ils accordent aux médias, aux grandes entreprises et aux gouvernements, et l'importance du travail dans leur vie sur l'impact et les technologies. Une question primordiale leur a été également posée. Quels sont les problèmes les plus graves auxquels le monde est actuellement confronté? Ce premier problème, qui a été le plus souvent cité par les jeunes, est le même depuis maintenant 3 ans. C'est l'environnement. En France, ce sont les préoccupations sur le pouvoir d'achat. Cette différence est considérable. Est-ce un problème uniquement français ou est-ce que les Français sont égoïstes? Et qu'apprend-on en plus sur la France dans le monde? Les Français ne voient pas la corruption comme une véritable préoccupation. Mais la montée des inégalités et de la délinquance les inquiète beaucoup plus. Ils sont sans problème en face de la religion, mais ont peur de l'immigration, très certainement à cause du chômage permanent. La grande préoccupation après l'environnement est le pouvoir d'achat et la peur d'une destruction du système social. Ils n'ont pas nommé la dette, mais ils savent qu'ils vivent à crédit. C'est ainsi que la France possède un peuple âgé, particulièrement aidé, et que sans la nommer, la dette publique officielle, qui s'est accrue de 600 milliards d'euros en 5 ans, les effraie beaucoup plus, et pour beaucoup, c'est une faillite annoncée.
Loïc Bachou, qu'on vous retrouvez tous les mardis dans le Quoi de Neuf. Jean-Pierre Colombiès, au plaisir, j'espère vous revoir, vous n'allez pas disparaître, non ?
Non.
Il y aura une pièce de théâtre là bientôt ?
Ben, toujours en cours.
Toujours
là,
en cours. Là.
Dimanche dernier.
Faites votre promo, allez-y.
Oh, la promo, je ne suis pas non plus.
Allez-y.
Je ne suis pas Alain Delon.
Allez-y, faites-y.
On joue Darius Milhaud, une pièce qui s'appelle le deuxième coup de feu, qui est très marrante, très sympa. Les gens sont contents de se détendre et de rire. Et voilà,
c'est un bon moment. Allez-y le voir. Non, franchement, il faut aller le voir.
Mais c'est où ? Dans quel théâtre ? Darius Milhaud, c'est dans le 19e.
Ah, bah oui, mais c'est pas autant. Enfin, comme si c'était.
Ah, bah oui, c'est évident.
Les Folies Bergères, d'accord.
Darius Milhaud. Je vous dis, il faut aller le voir. Hassan Amou, vous reviendrez depuis Marseille ?
Non, vous êtes trop anti-écologiste pour moi.
Mais vous reviendrez pour FM ?
Ouais, j'essaierai.
Vous hésitez, hein ?
Non, je reviendrai.
Le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, il est là. Analyse politique et Michel Fayad, à bientôt.
À bientôt.
Marwan ?
Faire un petit bisou, c'est possible ?
Bah,
à la petite nièce qui m'écoute, gros bisou.
Comment elle s'appelle ?
Sanaï.
C'est fait. Il vous a embrassé, votre oncle.
Voilà.
Marwan Mioubi. Augustin, l'entrepreneur. Varg.
Avec plaisir.
Au plaisir. À la réalisation, c'était Solal. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bilal Nedman, c'est Time Sport. Ça va parler de la CAN ce soir. Deux matchs exceptionnels ce soir, à ne pas manquer. Avec Bilal Nedman, justement. Deux, évidemment, têtes d'affiche. Donc, ça promet ce soir. Je ne sais pas si vous suivez un peu la CAN, non ? Non ? Ça va être corsé. Hein. Moi, hier, la Côte d'Ivoire qui a éclaté, le Sénégal.
Non, ils les ont pas éclatés. C'était dur.
Quand même, c'était dur.
Mais, c'était dur. Le Maroc va aller loin.
Ouais. Bah, écoutez, à suivre ce soir chez Bilal. Vanessa, c'est ce soir aussi. À demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.